grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Dr Dieudonné Kokelea Boulungé. Il est docteur en médecine, spécialiste en chirurgie générale et en chirurgie plastique et microchirurgie. Il est aussi acteur politique, membre du parti politique Solidarité Congolaise pour la démocratie et le développement SCOD. Docteur Dieudonné Kokelea, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Avec vous, dans cette émission, nous parlerons de votre personne. Nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Vous êtes docteur en médecine, je l'ai dit, spécialiste en chirurgie générale et en chirurgie plastique et microchirurgie. Vous êtes né à Lubumbashi.
Oui, je suis né à Lubumbashi, madame, et merci de m'avoir invité.
Merci, docteur. En quelle année? Quel jour du mois?
Je suis né le 1er janvier, donc je suis un tout petit peu enfant de la fête de la fin d'année ou de la bonne année.
Vous avez grandi à Lubumbashi? Vous avez passé toute votre enfance à Lubumbashi?
Oui, tout à fait. J'ai grandi à Lubumbashi dans plusieurs communes, que ce soit ce qu'on appelait commune Albert, qui est devenue commune Kamalondo, commune Kenya, et puis commune Katuba. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires au collège Saint-Boniface de Lubumbashi. Donc je suis vraiment le choix de naissance et pratiquement de cœur.
Alors vous avez grandi dans les communes, je dirais, un peu chaudes du Katanga ou de Lubumbashi.
Tout à fait. Donc j'ai grandi là où il y avait effectivement le foisonnement de la vie africaine. On appelait ça les communes africaines à l'époque. Et je suis venu vivre ici dans la commune Lubumbashi, qui était commune Elisabeth à l'époque. Mais bon, ma vie d'enfance, c'était beaucoup plus dans les communes africaines.
Docteur, vous avez grandi dans quelles conditions?
Je dis que c'était dans des conditions tout à fait optimales, dans la mesure où le système colonial que j'ai connu, et donc l'administration coloniale, prenait en charge pratiquement mes études, mon problème de santé, donc les soins médicaux, ainsi de suite. Donc j'étais plutôt obligé d'aller en classe. Je ne pouvais pas faire école buissonnière ou rester à la maison.
Donc j'ai grandi. Et au cas où vous restez à la maison ou vous faites l'école buissonnière, qu'est-ce qui est arrivé?
Très rapidement, donc les responsables de l'administration coloniale étaient au courant. Je ne sais pas comment ils faisaient, est-ce qu'ils passaient dans chaque école pour faire les présences, je ne saurais pas le dire, mais ils étaient très vite au courant et les parents étaient sanctionnés, ils étaient rappelés un tout petit peu à l'ordre et j'étais obligé de repartir en classe très rapidement.
Est-ce que c'était une bonne méthode selon vous?
Cela va sans dire parce que voyez les résultats, nous sommes plusieurs qui avons grandi à cette époque, qui sommes devenus en tout cas des responsables, qui avons fait des études supérieures dans des meilleures conditions avec de grandes réussites. Donc ils nous ont encadrés et je pense qu'on leur doit une fière chandelle.
Vous avez étudié au collège Saint-Boniface de Lubumbashi, aujourd'hui Kitumaini, je crois.
C'est cela,
je
ne
me trompe pas.
C'est cela.
Vous avez obtenu un diplôme d'État. Quelle option?
J'étais dans l'option d'abord gréco-latine qui est devenue littéraire. Donc c'est ce que j'ai fait comme option au collège.
Et comment vous vous retrouvez en médecine à l'université?
Mais justement, c'est une longue histoire. J'avais moi souhaité devenir avocat ou je sais pas économiste, mais lorsque je me suis retrouvé à Lovanium, il y avait un prêtre qu'on appelait le père Plevost qui orientait tous les étudiants. Il était le seul à pouvoir faire l'orientation. Et il a choisi pour moi la médecine de façon tout à fait univoque, sans demander mon avis. Et Dieu soit loué, je me suis retrouvé en médecine alors que la plupart de mes collègues de collège se sont retrouvés dans la faculté de droit et la faculté des sciences économiques. Je m'en suis sorti et voyez-vous, je suis devenu même chirurgien de surcroît.
Et ce déplacement de Lubumbashi vers Kinshasa, c'est parce qu'il n'y avait pas encore d'université à Lubumbashi que vous vous êtes retrouvé à Lovanium?
Non, non, l'université officielle de Lubumbashi, donc l'UOC, était déjà existante, Lovanium existait aussi. Mais je pense qu'il y avait une politique de rassemblement, une politique de brassage des Congolais que le système obusien avait mis en place, que nous avons d'ailleurs apprécié, qui avait fait qu'il n'y ait qu'une seule faculté de médecine pour tout le Congo, pour tout le Zaïre à l'époque. Et donc celui qui voulait faire la faculté de médecine ou la faculté des sciences devait aller absolument à Kinshasa. Ceux qui voulaient faire les facultés des sciences humaines ou d'agronomie devaient aller à Kisangani. Et les autres, n'est-ce pas, restaient à Lubumbashi. Donc voilà un tout petit peu comment c'était réparti. Et j'ai eu, je pense, aujourd'hui, la chance d'aller étudier à Louvagnum, ce qui m'a permis de connaître mon pays et de me sentir vraiment congolais à part entière.
Et à Louvagnum, vous avez obtenu un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, mention distinction.
Oui, madame.
Vous étiez très appliqué.
Oui, j'étais appliqué, même si, bon, comme tous les jeunes de l'époque, nous étions dans le vent avec les Aïko, avec tout le monde qui était sur le terrain. Nous avions des bourses d'études qui étaient suffisamment consistantes, qui nous permettaient donc de vivre décemment, sans dépendre de nos parents. Malgré tout, donc, nous étions aussi des bons étudiants et nous étions appliqués. Nous étions dans des conditions d'internement au niveau de ce qu'on appelait le campus de Kinshasa, donc Louvagnum. Nous étions très très bien internés, nous étions logés, nous étions nourris, nous étions véhiculés et soignés. Si on ne réussit pas dans ces conditions, alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut réussir autrement?
Et vous aviez des professeurs étrangers ou congolais?
La plupart de nos professeurs étaient étrangers. C'était soit des Français, des Belges, soit des Roumains, des Polonais même, nous en avons eu. Quelques Congolais seulement, je pense qu'à l'époque nous n'avions que deux professeurs congolais.
Et qui donnaient cours en français?
Qui donnaient
les
cours.
Roumains, les Polonais?
Tous donnaient cours en français. Mm-hmm. Tous donnaient cours en français. Même les Allemands donnaient cours en français.
Docteur Dieudonné Kokelea, quel est le souvenir qui vous a marqué pendant votre jeunesse, pendant que vous grandissiez?
Bon, ce qui m'a marqué, c'est d'abord la joie que j'avais de faire partie des mouvements associatifs. J'ai été dans les mouvements des scouts à partir de très tôt, donc Louveto, scout, puis je suis monté au clan, comme on disait. Et puis, bon, j'étais dans les mouvements des sportifs, l'athlétisme. Donc tout cela m'a vraiment marqué. Lorsque je suis arrivé au campus de Kinshasa, donc à Louvagnum, je me suis retrouvé dans l'organisation des étudiants qui devaient faire ce qu'on appelle la gestion collégiale avec les administratifs de l'université. Nous avions créé un comité qui devait gérer collégialement avec les administratifs. Je me trouvais dans ce comité-là comme ministre chargé des affaires sociales.
Vous aimez le sport?
Oui, j'aime le sport. Je suis athlète. J'ai gardé encore un tout petit peu d'appétit pour le sport, même si ça devient de plus en plus rare, les exercices.
D'accord. Alors, docteur Dieudonné Kokelea, après vos études universitaires, vous êtes revenu à Lubumbashi pour travailler?
Je suis revenu à Lubumbashi pour retrouver ma famille, parce que ça faisait longtemps que j'étais parti, mais également pour prendre contact avec le terrain médical. J'ai travaillé donc à la Gécamine.
Pendant 2 ans?
Oui, à Kolwezi, et je suis allé jusqu'à Luena, à Bukama. Donc, j'ai travaillé dans la brousse à l'époque. Ça m'a permis de forger un caractère et en même temps de me frotter un tout petit peu aux réalités sanitaires de mon pays. Okay. À l'époque, évidemment, c'était plus ou moins l'idéal. Les hôpitaux étaient bien achalandés. Et surtout
même en brousse?
Même en brousse, oui. Lorsque j'étais à Luena, j'avais tout ce que je cherchais, tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir soigner mes malades.
Est-ce le cas aujourd'hui, quand vous allez à Luena? Est-ce que vous retrouvez les mêmes conditions que vous aviez quand vous avez commencé à travailler?
Je pense que les conditions se sont détériorées, c'est une réalité. Nous sommes un pays post-conflit, il y a eu beaucoup de casses, et puis nous avons une économie qui est plus ou moins brinque-ballant, donc qui a des difficultés énormes. Et donc j'ai eu à visiter l'hôpital de Malemakulu, l'hôpital de Manono, et je me suis rendu compte qu'il y a effectivement des difficultés énormes au jour d'aujourd'hui pour être médecin dans ces coins-là.
2 ans de pratique à la Gécamine, Lubumbashi et Kolwezi, vous décidez de vous spécialiser en chirurgie générale, hein?
Oui, parce que d'abord vous êtes rendu compte que j'étais assez appliqué sur le plan des études universitaires et j'avais la conviction que la chirurgie qui m'avait été enseignée, qui m'avait été donnée à la Gécamines ne suffisait pas. Il fallait que j'aille aux sources, auprès des grands maîtres, pour pouvoir, n'est-ce pas, connaître plus et avoir peut-être la chance un jour de pouvoir dispenser cette chirurgie à d'autres Congolais. C'est comme ça que lorsque la chance s'est ouverte à moi, je n'ai pas hésité pour partir en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, donc dans les cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles, où j'ai commencé mes premiers pas donc pour la chirurgie générale.
Et là, pendant 3 ans, de 81 à 84.
Oui, je suis resté là donc pendant 3 ans pour faire ce qu'on appelle le tronc commun. Ça signifie une rotation dans tous les services de chirurgie très variés, que ce soit la chirurgie digestive, la chirurgie vasculaire, la chirurgie urologique, gynécologique, la chirurgie traumatologique, la plastique, donc la chirurgie plastique, et j'en passe. Donc c'était vraiment le tronc commun, la rotation totale. Et après cela, donc pendant le tronc commun, nous étions considérés comme assistants juniors. Et après cela, donc je suis parti au Grand-Duché de Luxembourg comme assistant senior parce que j'étais déjà aguerri.
Alors parlons de la chirurgie plastique. On entend souvent parler des chirurgies plastiques. C'est quoi concrètement, docteur?
La chirurgie plastique, donc, c'est cette discipline de chirurgie, d'hyperchirurgie, qui s'applique plus ou moins à deux sous-ensembles, la chirurgie de reconstruction et la chirurgie esthétique. La chirurgie de reconstruction, c'est lorsque effectivement on cherche à redonner les formes, soit que la personne a perdu au cours d'un accident, au cours d'un traumatisme, soit que la personne est venue au monde avec une malformation qui donne une certaine amputation, une certaine déformation, une certaine laideur et qui lui permet pas de pouvoir, n'est-ce pas, se réinsérer dans la société correctement. Ça, c'est la chirurgie donc de reconstruction des formes. Mais alors, la chirurgie esthétique, c'est lorsque la personne n'est pas contente de ce que le bon Dieu lui a donné. Elle préfère changer de forme. Ça, c'est la chirurgie esthétique qui répond aux caprices plus ou moins de l'individu.
Cette chirurgie a quand même des conséquences, docteur.
Oui.
D'après ce que l'on entend.
Oui. Non, il n'y a pas que des échecs. Il y a aussi des réussites. Ce dont on entend, c'est surtout les échecs. Lorsque ça a tourné court, ça a mal évolué, alors on entend parler. Mais il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Europe, que ce soit même ici en Afrique du Sud, en Angola, qui recourent à la chirurgie plastique, à la chirurgie esthétique et qui n'ont pas beaucoup de problèmes. J'en ai pratiqué sur certains patients. Ici à Lubumbashi, la chirurgie de reconstruction du nez, par exemple les rhinoplasties, la chirurgie de reconstruction des paupières, la chirurgie de réduction de l'ampleur des oreilles, la chirurgie des seins. Donc on ne fait pas que des échecs, madame.
Même 30 ans après, il n'y aura pas d'inconvénients ou des conséquences?
Non, normalement, bon, le recul est déjà assez important pour ceux qui ont pratiqué pendant de longues années. C'est vrai que nous avons eu quelques problèmes en Europe avec les plasties mammaires par prothèse, mais on ne peut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Il y a eu des prothèses qui ont foiré, effectivement, mais on a pu mettre la main sur ce qui avait mis en circulation de mauvaises prothèses. Donc, je peux dire que avec un recul, la chirurgie plastique a déjà gagné ses lettres de noblesse.
En tant que spécialiste, docteur Kokelea, vous encouragez les gens à pratiquer cette chirurgie?
Absolument. Donc, je forme déjà quelques disciples qui doivent nous succéder, car madame, dit-on, un succès sans successeur est un échec. Donc, nous formons déjà d'autres qui vont nous succéder et nous sommes convaincus que dans l'évolution de notre peuple, de notre population, les demandes pour la chirurgie esthétique vont devenir de plus en plus importantes, comme cela se passe dans le monde entier.
Mais actuellement, beaucoup de gens n'aiment pas trop chirurgie.
Ils sont moins informés, c'est une chose. Et puis, ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas d'infrastructure. Ça ne devrait pas coûter cher si nous sommes dans un contexte de sécurité médicale. Si nous avons des assurances maladie, si nous avons des mutualités de santé, cela ne devait pas coûter cher parce que ça serait pris en charge par les mutualités de santé. Mais cette culture, justement,
c'est ça qui de
prise en charge individuelle,
cette culture,
c'est ça. Lorsque nous essayons de faire passer ce message-là auprès des autorités, cela ne semble pas être bien comprise.
Peut-être parce que vous n'expliquez pas bien.
Madame, l'explication là, je pense que ce sont des autorités qui regardent ce qui se passe par exemple en Zambie, qui regardent ce qui se passe en Afrique du Sud. Ce n'est pas l'État sud-africain, ce n'est pas l'État zambien qui sort l'argent, ce sont les mutuelles de santé. Et chacun contribue, c'est une responsabilisation. La santé n'a pas de prix, chacun doit y contribuer. Donc voilà, si nous avons cette option, si nous avons cette ambition de dire que chacun de nous contribue, il est certain, il est évident que les soins médicaux coûteront moins cher à l'État congolais.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, docteur Dieudonné Kokele, en plus d'être spécialiste en chirurgie plastique, vous êtes aussi spécialiste en chirurgie microchirurgie. Oui. Ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué le terme.
Oui, la microchirurgie, c'est en fait cette discipline qui s'applique à utiliser le microscope opératoire. Utiliser le microscope pour opérer les malades, c'est dans quel but? Lorsqu'on doit, par exemple, aborder les vaisseaux sanguins, les artères, et surtout les petites artères qui sont au niveau des membres, au niveau des extrémités des membres. Lorsqu'on a une amputation de la main et qu'on doit absolument réimplanter cette main qui a été amputée. Et on doit faire les micro-chirurgies vasculaires, donc on doit faire les micro-anastomoses pour entre les artères, entre les nerfs, entre les tendons. Là, il faut utiliser le microscope opératoire. La microchirurgie, c'est celle-là justement qui a permis qu'on puisse faire beaucoup de transplantations. Les transplantations au niveau du cœur, les transplantations au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau du pancréas. Donc, c'est une chirurgie, en fait, d'avenir. Et moi, j'ai cru à l'époque qu'il fallait absolument, avant de rentrer dans mon pays, avoir des connaissances et des compétences suffisantes là-dedans.
Mais vous n'avez pas encore commencé à exercer cette chirurgie ici?
Oui, disons que tout le temps que je suis resté en Europe, j'ai fait la microvasculaire et la microchirurgie, au niveau surtout des laboratoires, au niveau des cliniques, parce que j'étais dans des services où on pratiquait ça. Lorsque je suis revenu ici, j'ai la pratique, lorsque j'ai des sections veineuses, les sections artérielles, les sections nerveuses. Donc on pratique quand même, on utilise les microscopes opératoires. Lorsque je dois opérer, par exemple, la colonne vertébrale pour aller sur la moelle épinière et les racines nerveuses, j'utilise aussi les microscopes opératoires. Voilà donc les quelques champs d'application, mais ce n'est pas aussi redondant, ce n'est pas aussi important que ce qui se passe évidemment sous d'autres cieux.
Oui, beaucoup de gens préfèrent aller se faire soigner à l'étranger. C'est... Pourquoi, selon vos docteurs, les gens n'ont pas confiance aux médecins congolais?
Ce qui est tout à fait regrettable, parce que je pense que les médecins congolais ont toutes les compétences nécessaires et devraient pouvoir simplement bénéficier des infrastructures et des investissements suffisants pour pouvoir, n'est-ce pas, démontrer de quoi ils sont capables. Et je vous ai parlé de ce qui s'est passé à l'époque coloniale. Nous avions effectivement, que ce soit les autorités belges et autres, qui n'allaient pas en Belgique pour se faire soigner. Il s'est fait soigner ici sur place. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réuni toutes les conditions pour que la médecine soit aussi bonne qu'en Belgique. Alors, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les autorités congolaises qui devaient normalement soutenir cette médecine ici au Congo préfèrent, elles, avant tout, partir à l'étranger pour se faire soigner. Pour un oui, pour un non, même pour un bobo, pour une petite grippe, pour ceci, pour cela, on le retrouve en Europe. Donc, ça devait normalement être prohibé. Et je crois qu'il y a un problème de moyens. La plupart du temps, ceux qui vont à l'étranger, c'est ceux qui ont la main dans la caisse de l'État. Parce que si c'était de leur propre poche, comme ce ne sont pas des hommes d'affaires, ils ne se permettraient pas de faire cela. Et comme je vous dis, si on encourage la création des mutuelles de santé, eh bien, tous les autres qui n'ont pas suffisamment de moyens pourront avoir une médecine de qualité sur place parce qu'elle sera financée par ces mutuelles, justement, qui auront beaucoup de moyens.
Et donc, vous estimez que c'est un problème de volonté de la part des autorités congolaises?
C'est là,
si aujourd'hui, on n'a pas une médecine assez, assez forte, je dirais.
C'est sûr, cela va sans dire. D'abord, il n'y a pas suffisamment de moyens moyens sur le plan du budget de l'État. Mais en plus, il n'y a pas une stimulation, une exhortation à la création des mutuelles de santé, qui devaient normalement être très rapidement soutenues par l'État lui-même, et même les provinces. Et donc, je crois qu'il y a là, non seulement un problème de volonté politique, un problème de sous-information par rapport aux décideurs.
Docteur Dieudonné Kokelea, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous recevrons dans cette émission Docteur Dieudonné Kokelea Bulengele, docteur en médecine, spécialiste en chirurgie générale et en chirurgie plastique et microchirurgie. Comment vous passez vos moments de détente quand vous n'êtes pas occupé, quand vous n'êtes pas à l'hôpital avec les malades?
Oui, disons que je suis souvent chez moi. J'ai très peu de temps avec ma femme et mes enfants.
Et vous êtes marié et père de combien d'enfants?
J'ai au moins 6 enfants. Et donc, je passe beaucoup de temps avec eux et à rigoler avec mes enfants, à regarder la télé, à suivre les émissions pour enfants, les TG et autres. Donc, ça me permet un tout petit peu de renouer avec la famille. Mais en dehors de ça, j'ai aussi des rencontres avec les amis pour des discussions sur l'état de la nation.
Vous êtes un acteur politique, qu'on va en parler.
C'est cela. Mm-hmm. Donc nous avons de temps en temps des discussions assez chaudes sur comment va notre pays et ce qu'on pourrait donner comme solution, n'est-ce pas, à cette débâcle politique.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, docteur Kokelea?
Je crois que je n'aime pas l'inversion des valeurs. Je n'aime pas le détournement, je n'aime pas la paresse, je n'aime pas tout ce qui est plus ou moins de nature à révolter l'humanisme. Et c'est ça. Donc,
Alors justement, je veux vous poser une question par rapport à ça. Aujourd'hui, beaucoup des patients se plaignent du fait que lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, avant de toucher un malade ou de le soigner, on vous demande d'abord de l'argent. Comme vous n'avez pas d'argent, on ne touche pas votre malade. Il n'y a pas d'humanisme, docteur Kokelea.
Oui, c'est vrai. C'est ça justement, lorsque vous venez dans notre organisation non gouvernementale de développement appelée Espoir Médical, vous ne trouverez pas cette pratique-là. Vous verrez que normalement, nous allons directement commencer par vous soigner sans demander un paiement préalable. Mais le problème, c'est quoi, madame? Le problème, c'est que les soins médicaux ne peuvent pas être considérés comme les denrées les plus moins chères, pour ainsi dire. Donc, les soins médicaux exigent quand même que les acteurs de santé publique puissent avoir à leur disposition tous les moyens dont ils ont besoin pour pouvoir soigner les malades. Et ça coûte cher. Et donc, la difficulté, c'est que lorsqu'on a soigné, lorsqu'on a donné les soins sans réclamer les fonds, est-ce que après ces soins-là, on peut recouvrer ces fonds?
Donc, bien sûr, vous gardez le malade à l'hôpital.
Vous voyez, c'est ça le problème de la culture. C'est pour ça que je vous parle de mutuelle de santé. Le problème de culture, c'est que après, quand quelqu'un a déjà été bien soigné, il n'est plus pressé de pouvoir payer. Alors, il y a les recouvrements qui deviennent tout à fait pénibles, difficiles. On peut même se retrouver au parquet pour commencer à discuter des fonds et tout ça. Donc, je crois que je peux comprendre ceux qui disent, allez, il faut d'abord payer avant qu'on ne vous soigne, même si, c'est vrai, cela ne semble pas être médical, cela ne semble pas donner dans l'humanisme ou dans la charité dont nous avons besoin.
Il vous arrive d'écouter de la musique, docteur Kokelea?
Oui, madame, je suis mélomane. J'ai d'ailleurs pratiqué de la musique avant. Oui.
Vous étiez à l'université?
Oui, quand j'étais au collège et à l'université, j'aimais beaucoup effectivement la musique. Je me faufilais dans les groupes musicaux, n'est-ce pas, des étudiants. Donc, j'aime la musique, je suis mélomane, oui.
Quel est le groupe ou l'orchestre qui vous plaît, la musique que vous aimez bien écouter?
Je suis un peu vieux jeu, dans la mesure où je pense que la musique congolaise a dérapé un tout petit peu. Elle était partie vraiment au sommet avec les gens comme Kalejef, les gens comme Rocho, les gens comme Franco, et bien d'autres encore qui ont mis cette musique à un niveau tout à fait élevé. Mais bon, la jeunesse d'aujourd'hui, effectivement, fait aussi de la bonne musique, mais on a l'impression qu'ils se copie un tout petit peu et qu'on se retrouve dans le rap un tout petit peu partout. La musique donc de la bonne poésie avec une orchestration recherchée telle qu'on l'a aimée ne semble plus tout à fait de mise sur le terrain. Même si, bon, je dois citer les gens comme Kofi, les gens comme Ferré, comme Fally, comme JB, donc tous ces jeunes gens-là, sans oublier effectivement Madoulou System qui nous a quittés mais qui nous a laissé un grand paquet, n'est-ce pas, de patrimoine musical. Donc,
alors, je voudrais que vous puissiez me donner le titre d'une chanson qui vous fera plaisir.
Le titre d'une chanson qui me fera plaisir parmi les musiciens.
Les musiciens donc, que vous avez cités.
Oui,
Matilou,
oui.
Kofi, Ferré.
Bon, disons que j'ai en tête une chanson, je ne saurais pas tout à fait donner le titre, c'est JB. Lorsqu'il dit « Nazamona Congo ». Cette chanson-là, si vous pouvez me la retrouver, elle me fait vraiment plaisir. Parce que c'est le seul qui a réclamé cette congolité dans sa chanson.
D'accord. La technique va essayer de nous retrouver cette chanson de JV Mpiana. On me signale qu'on n'a pas la chanson de JV Mpiana à la place docteur Dieudonné Kokelea. On va vous proposer autre chose, une autre chanson de JV Mpiana.
L'amour, est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. D'amour, surtout qu'on a pas divorcé. Ma copine, ça y est, témoignage n'a pas beau. Okoyo Kamawa, Okoyo Kangolou, Okoti Kala, stupéfé. C'est Koka moi, Kamwa, maman. C'est Koima, Ima, maman. C'est Kotuna, Tinanzambe, Akela, l'amour.
Chami, Nadjem, Oyo.
Amida, atana pasi toko fandae, atabiketi toko lia, atatomson me toko tonda, yezu kutu mwana ya nzambe, babota enandako ya mpata, kasi mokili oyo ya tata na ye, ikolo nase ya bango, kamwa ve, oma kamwisi mama. Hey! Simon, le meilleur.
Nakini libasa ya kolinga moto bakoma kotuno sana kawabye ayi biso tofani na malweka nanya kolinga biso e mingi baboya bango se bango mosika eleki bangungi baleki taxi kutwe boyaka bakoma kotuno tanga kawabye ayi biso tobuka biki mwakala nanya kolinga biso e tika tokosa ta kokosa ngai nazali gradue ngai nazali licencie ngai nazali ingénieur po balinganga basusu libasa ya kolinga moto bakoma kotuna de famille ezanga dife nanya kolinga biso e zanja pungu bandela mokili oyo otunaka moko moko soki nanya kolinga kobotama lisusu na famille ya pauvre ngai te
Nga obe na famille Adam Bombole, le grand saoudien. Oba menaka tito monyoso, na miliki, na mateka, na soucisson.
Passe na nga eliki mate, yango na efase ba souvenir nyoso ya mabe na bongo nanga. Mimwa nanga ebika kakombo ya Amida Chatu. Na yende pèlerinage epana yo, beto langa mama, suko langa mama, salisanga na bikao. Na linga minele pe baindo, ikuse milai. Na linga mike pe minene, kasi chancelier wapi alati sanga palata ataya bronze nantolo. Soit disant ancien amoureux, ou ancien de Sayo, asalakala, roi de guerre, homo salampunda mama.
Tonton Fila, Simba Motema, Bina Malembe.
Je l'ai dit, vous n'êtes pas seulement docteur en médecine, vous êtes aussi acteur politique. Docteur Dieudonné Kokelea, vous êtes membre du parti Solidarité Congolaise pour la démocratie et le développement, SCOD. C'est un parti membre de la majorité présidentielle. Alors, en tant qu'acteur politique, docteur Kokelea, quelle analyse vous faites de la situation du Nord Kivu?
Disons que, de prime abord, c'est une situation désastreuse. C'est une situation qui ne fait pas la fierté de la patrie, de la nation congolaise. C'est une situation qui mérite qu'on puisse s'y pencher rapidement et qu'on y mette fin. Donc, je dis que nous avons laissé s'enliser plus ou moins cette situation pendant plusieurs années en essayant de trouver des solutions qui étaient plus ou moins amiables avec des groupes armés que nous n'arrivons pas à contrôler en réalité. Et, notre armée...
Est-ce que c'est la faiblesse de l'État, le fait de ne pas arriver à contrôler tous ces groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie du pays?
Je pense que peut-être pas tellement la faiblesse de l'État, peut-être aussi les difficultés conjoncturelles sur le plan économique et sur le plan politique. On a cherché donc un consensus dans tous les sens, un consensus sur le plan politique, sur le plan militaire. Et ceci nous amène peut-être à des compromissions. Et ces compromissions deviennent difficiles à gérer, dans la mesure où celui qu'on a cru être un patriote, à qui on tend la main pour lui dire « viens donc qu'on puisse s'asseoir ensemble et construire d'abord le développement au lieu de continuer à faire la guerre », eh bien il se retire quelques années après pour dire lui « il préfère la guerre ». S'il y a eu la faiblesse à un moment, il faut maintenant montrer la rudesse, il faut montrer effectivement le respect de ce qu'on appelle l'État. C'est ça que nous attendons tous.
Et par rapport aux négociations de Kampala, vous êtes pour ces négociations ou contre ces négociations? Vous pensez que ces négociations pourront aboutir à une solution durable?
Mais nous pensons tous qu'il faut toujours négocier tant qu'on considère qu'il s'agit de nos compatriotes. Donc, verser le sang d'un Congolais, qui qu'il soit, ce serait un tout petit peu outrepassé. Mais une chose est certaine, ces négociations ne devraient pas remettre en question la souveraineté de toute une nation, de tout un État. C'est là où moi j'ai des craintes. Donc si les négociations doivent maintenant remettre en question et les élections et la souveraineté et le pouvoir du président ainsi de suite, alors il faut pas y aller. Il faut pas y aller parce que là c'est dénudé complètement et c'est dénaturé aussi. Donc je pense qu'effectivement il faille négocier jusque dans les termes où, en tant que nation, on peut négocier avec les compatriotes. Et dans l'entretemps, pendant qu'on négocie, on renforce aussi nos positions, on renforce nos militaires pour que le cas échéant, on puisse effectivement avoir cette fois-ci une victoire militaire et pas une victoire politique.
Docteur Kokeleya, le fait que le gouvernement ait accepté de négocier avec le M23, les M23 qui se réclament être un groupe armé congolais, est-ce que ça ne va pas pousser les autres groupes armés qui existent dans l'est de la RDC, il y en a beaucoup quand même, de faire comme les M23, de chercher aussi commencer une guerre quelque part pour négocier avec le gouvernement.
Moi, je pense qu'effectivement, j'ai regretté un peu que ces négociations se passent à Kampala. Parce que l'Ouganda est cité parmi les pays potentiellement agresseurs. Et qui soutiennent, n'est-ce pas, le fameux M23. Alors, aller dans l'antre du loup pour aller négocier, n'est-ce pas, avec son fils, je pense que c'est un peu ce qui m'a, j'ai regretté. On aurait pu aller au Kenya ou en Tanzanie ou en Angola pour discuter. On serait sur un terrain pratiquement neutre. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si les autres groupes vont faire comme les M23, je ne crois pas. Pour la simple raison que, à l'heure qu'il est, j'ai entendu dire que les pays de la SADC ont accepté de pouvoir prêter main forte à l'armée congolaise et que cela devait normalement entrer en vigueur le 14 décembre. Donc nous sommes déjà dans une période où il doit y avoir déjà quelques membres de la SADC sur le terrain. Et la volonté, c'est qu'on puisse dissiper complètement, désarmer, n'est-ce pas, ces groupes armés, à commencer par le M23, qui s'estime être le plus fort.
Docteur Dieudonné Kokeleya, on a parlé de l'actualité nationale, revenant dans la province du Katanga. Depuis un certain temps, il y a un malaise entre le gouverneur de la province du Katanga et le président de votre parti politique, Jean-Claude Muyambo. C'est quoi le problème?
Madame, je ne suis vraiment pas dans le secret du Dieu et je ne pourrais pas vous donner une réponse à ce sujet. Ce que je voudrais d'abord relever, c'est que ce sont des gens qui se connaissent. Ce sont des gens qui ont été des amis pendant longtemps. Ils ont beaucoup de choses qu'ils ont partagées ensemble. Et donc, ni moi, ni les autres membres de notre parti ne se trouvent au courant. C'est un problème purement individuel entre deux personnes qui se sont chéries, qui ont partagé des secrets. Donc, je ne saurais
pas
rentrer.
Mais comment vous ne pouvez pas être au courant de tout ça, docteur Kokeleya, alors que vous êtes membre du SCOD?
Oui, c'est vrai, je suis membre d'un parti politique, mais ce parti politique n'est pas impliqué dans ce conflit, dans la mesure où le parti politique n'a pas été saisi pour pouvoir faire une réunion et donner son opinion là-dessus.
Mais dans toutes les lettres, le président signe Jean-Claude Muyambo, président SCOD. Donc, on comprend que le parti est aussi impliqué ou connaît l'affaire.
Je pense qu'en tant que président national, il a pu, n'est-ce pas, signer dans ce sens-là, même si, effectivement, vous aurez remarqué que ces lettres ne sont pas contresignées, ni par le secrétaire général du parti, ni par le vice-président du parti, ni encore moins par le membre fondateur du parti. Donc, je crois que ça a été probablement une erreur stratégique de pouvoir utiliser le logo du parti et les lettres en tête, mais une chose est certaine, il a signé seul. Et donc, il s'est impliqué seul, sans nécessairement ramener tous les membres du parti là-dedans, qui n'ont d'ailleurs pas contresigné.
Et mais comment vous analysez cette situation, ce problème?
Nous avons tous regretté cela. Nous avons regretté non seulement l'attitude de notre président, nous avons regretté aussi l'attitude de l'autre parti, parce que les injures par la voix des ondes sur la télévision et tout ça, c'était dans les deux camps. Lorsque vous voyez deux personnes au loin se jeter de cailloux et qu'on vous dit parmi eux il y a un fou, vous allez dire c'est lequel? Vous ne saurez pas, parce qu'ils sont en train de se jeter le caillou tous les deux. Donc nous avons regretté cette attitude irresponsable de ceux qui sont censés justement diriger la nation. Et donc ça devrait normalement cesser. Ça devrait cesser. On devrait revenir à l'orthodoxie. Lorsqu'on est homme d'État, il y a des exigences, il y a des attitudes, il y a une moralité à pouvoir, n'est-ce pas, respecter absolument. Je parle de l'éthique en tant qu'homme d'État. Et donc, que ce soit celui qui était dans le temps ministre et qui reste ministre honoraire, celui qui est actuellement gouverneur, il y a une éthique. Et c'est ça qui manque malheureusement dans les deux cas.
Voilà, docteur Dieudonné Kokelea, nous sommes à la fin de notre entretien. On va revenir sur la médecine. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du travail que vous faites?
Personnellement, je pense que je pourrais faire mieux. Je pourrais, si j'ai à ma disposition beaucoup plus d'équipements, une infrastructure hospitalière au top, je peux effectivement donner à notre population de Lubumbashi la médecine qu'elle va chercher en Afrique du Sud et en Inde maintenant, parce qu'on va jusqu'en Inde et ailleurs. Donc je ne peux pas dire que je suis satisfait. Je fais le meilleur de moi-même, je donne ce que je peux, n'est-ce pas, pour garder le niveau d'une médecine de qualité, mais je pense qu'on peut faire mieux. Tous les médecins congolais peuvent faire mieux si on les met dans les conditions comme les médecins sud-africains, comme les médecins indiens,
si comme partout ailleurs.
Si le gouvernement ne peut pas, alors qu'il puisse nous permettre et qu'il puisse appuyer la création des mutuelles de santé, des assurances maladie, pour que justement ces structures-là, qui seront plus ou moins indépendantes, prennent en charge ce problème-là.
Votre ONG oui. Espoir Médical, oui. Vous avez des partenaires, vous avez un financement, ou c'est par les cotisations de ses membres que vous faites fonctionner votre ONG?
C'est cela. Donc au départ, nous avons eu un capital qui était composé de la participation des différents membres, des parts des différents membres, et de plus en plus, donc, nous vivons sur ce qu'on appelle l'autofinancement. Ça signifie que nous produisons, nous soignons les malades, nous encadrons des jeunes, et tout cela nous permet d'avoir suffisamment de moyens que pour pouvoir non seulement payer les salaires, c'est difficile, lorsqu'on crée une ONG, en fait, on crée aussi l'emploi. Donc il faut rémunérer correctement les gens qui travaillent là-dedans, mais également continuer à ravitailler l'ONG, n'est-ce pas, en différents médicaments dont on a besoin, mais aussi en différents équipements dont on a besoin essentiellement. Les équipements, par exemple, pour l'imagerie médicale, la radiologie, l'échographie, et puis les équipements pour la chirurgie, les appareils d'anesthésie, les bistouris électriques, et j'en passe, donc les moniteurs, donc, pour surveiller les malades, les appareils d'oxygénation. Tous ces éléments-là demandent des fonds, et donc c'est sur autofinancement. Évidemment, nous aurions souhaité avoir des subsides, même un tout petit peu, de l'État, parce que nous sommes quand même sur le terrain. Nous participons à la prise en charge des malades congolais. On ne peut pas nous ignorer. L'État ne peut pas simplement fermer les yeux en disant « ok, qu'il se débrouille tout seul » puisque nous participons à son action. C'est lui l'État qui a le ministère de la Santé. C'est lui l'État qui a le budget qu'il défend au niveau du Parlement, soit provincial, soit national. Et donc, ce budget-là devait prendre en charge aussi les différents acteurs qui sont sur le terrain pour un tout petit peu les booster, pour les aider, pour les encourager.
Alors, un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent partout en RDC. Chers Congolais, il faut vous faire soigner au pays ou bien il faut aller en Europe lorsque vous estimez qu'on ne peut pas bien vous soigner au pays?
Je pense que avec beaucoup d'objectivité, ceux qui ont des moyens peuvent toujours continuer à aller chercher la médecine là où ils la trouvent meilleure, même si parfois ils reviennent dans les cercueils. Donc, mais pour la plupart d'autres Congolais, nous les exhortons à pouvoir, n'est-ce pas, rapidement adhérer aux mutuelles qui vont être créées et pouvoir cotiser de manière à ce que nous ayons les mêmes conditions de médecine que celles qu'ils vont chercher ailleurs. C'est la seule solution. Comme disait Mobutu, eh bien, le bonheur des Congolais ne sera pas fait par les étrangers. Donc, c'est une erreur de croire qu'en allant à l'étranger, on a un certain bonheur.
Docteur Dieudonné Kokelea, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir invité.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dr Dieudonné Kokelea, spécialiste en chirurgie plastique et microchirurgie. Il est également acteur politique congolais. Merci à Paulin Munanga qui était à la technique au micro Kélin Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bon suite de programme sur la fréquence de la paix.